Ben alors on chante tous Get There. Décomplexé, décomplexé. Unbelievable,
unbelievable,
unbelievable.
Oh yeah.
Je suis décomplexé, décomplexé. Yeah, 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 yeah. Je suis décomplexé, décomplexé. Yo,
yo.
Je suis décomplexé, décomplexé. Yeah, 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 yeah. Décomplexé. Yeah, yeah, yeah. Décomplexé. Yeah, yeah, yeah. Décomplexé. Yeah, yeah, yeah. Décomplexé. Yeah, yeah, yeah. Rien à péter.
Ah bon?
Yeah, yeah, yeah.
À Dakar et Conakry, bienvenue sur RFI.
RFI Matin, Andréane Mélard.
Et le journal de Paul Lonsin-Spinelli avec à la une, Paul, ce plan de la Russie pour redessiner le Sahel à sa façon.
En cimentant l'alliance des États du Sahel et en tentant de l'étendre aussi à d'autres pays comme le Tchad, le Sénégal ou la Guinée, cette stratégie, elle est issue de documents confidentiels d'une cellule russe d'influence baptisée la Compagnie Africa Politology. Un consortium international a pu enquêter sur ses objectifs. RFI vous présente ce travail minutieux dans ce journal. Au Moyen-Orient, Donald Trump ne lâche pas l'option négociation. Il croit qu'un accord est possible avec Téhéran. Pour autant, le président américain n'exclut pas de s'emparer de l'île de Karg, terminal pétrolier crucial pour l'Iran. Journée internationale zéro déchet aujourd'hui et la Chine est à l'avant-garde. Ses usines d'incinération produisent de l'énergie propre et ont remplacé les décharges. Et puis des bleus qui peuvent nourrir de grandes ambitions au mondial de foot cet été après une nouvelle victoire séduisante face à la Colombie hier soir.
Un travail de fourmi pour mieux comprendre les mécanismes de la stratégie russe au Sahel.
Plus de 1400 pages de plans stratégiques et de documents comptables ont été scruté par un consortium international auquel RFI a participé. Il en résulte le dernier volet de notre enquête sur la compagnie Africa Politology, cette cellule créée par le groupe Wagner, absorbée par les services russes ensuite et dédiée à l'influence et à la communication. François Mazet, bonjour.
Bonjour.
Dans des documents confidentiels reçus par le média panafricain The Continent et authentifiés par le consortium, ces experts russes expliquent comment ils ont accompagné la création de l'Alliance des États du Sahel, puis se sont fixés pour mission de l'élargir.
Oui, d'après leurs termes, il s'agit de reformater un espace géographique allant de Dakar et Conakry à Port-Soudan et Asmara dans un mouvement anti-occidental dont le moteur serait le Mali. Dans les documents, les hommes de la compagnie détaillent, pays par pays, leurs objectifs stratégiques et leurs réalisations. Ils se félicitent, par exemple, de la dissolution de la CEMAS, le mouvement de Mahmoud Diko, adversaire de la transition à Bamako et qualifié d'imam djihadiste. Ils assurent également avoir gêné les négociations entre les États-Unis et la junte nigérienne en mars 2024. Leur spécialité, des campagnes de communication via des centaines de posts ou articles sponsorisés sur les réseaux sociaux ou dans des médias du continent. Des lignes budgétaires permettent de quantifier les dépenses engagées. Par exemple, $64,500 au Niger en septembre 2024.
Et l'objectif stratégique de cette officine russe, c'est aussi d'élargir l'AES.
Le Tchad est mentionné comme objectif de niveau 1 dans les documents du groupe. La Guinée, le Sénégal, le Togo sont vus comme des perspectives. Le port de Lomé est décrit comme un hub logistique vital d'où il faut, je cite, « enlever l'influence française ». Le Bénin et la Côte d'Ivoire sont également cités comme futurs terrains de combat informationnel. Les documents mentionnent des réunions de travail en juillet 2024 avec l'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro installé dans l'AES.
Ces documents, ce sont des rapports internes, François, mais qu'est-ce qu'on sait de la concrétisation de ces stratégies ?
Les hommes de la compagnie affirment que leur action renforce l'intégration des trois pays de l'AES, mais n'hésitent probablement pas à gonfler leur rôle. Par exemple, dans la réforme du code minier malien et la renégociation des contrats avec les multinationales. Pour Lou Osborne du collectif All Eyes on Wagner, membre du consortium, leur contribution est à relativiser par rapport aux intérêts des acteurs nationaux.
Ils jouent sur le fait que ceux qui vont les lire ne connaissent pas du tout le continent africain. Et donc, ils s'attribuent des victoires un peu grosses et on voit même dans les documents que parfois ils copient-collent des mesures d'un pays à l'autre. Parce que finalement vu de Moscou, le Burkina Faso c'est un peu la même chose que le Mali ou la Mauritanie. Ils sont très bons à surfer sur des mécontentements qui en fait sont déjà là, mais finalement ils sont pas très bons pour comprendre réellement parce que ils ont pas une compréhension très fine de ce qui se passe.
En voyant par exemple les États-Unis réinvestir la zone sahélienne, là où l'objectif russe était de les chasser.
Merci François Mazet pour le dossier de ce journal. Cette enquête sur les experts russes de la compagnie Africa Politology est à lire en intégralité sur RFI.fr.
Donald Trump, toujours aussi flou à propos de l'Iran.
À la fois, le président américain dit entrevoir un accord avec de nouveaux dirigeants iraniens issus d'un changement de régime qu'il dit avoir obtenu. Mais d'un autre côté, Donald Trump estime aussi que l'armée des États-Unis pourrait prendre très facilement, je cite, l'île de Karg. C'est ce terminal pétrolier géant par lequel transite 9 barils de pétrole iranien sur 10. L'hypothèse d'une opération terrestre reste donc plausible, d'autant que 3500 nouveaux soldats américains sont arrivés hier dans la région, Lubna Anaki.
Les États-Unis ont désormais plus de 50 000 militaires déployés au Moyen-Orient. Et à en croire les médias américains, Donald Trump serait en train d'étudier plusieurs scénarios, y compris l'envoi de troupes américaines sur le sol iranien, une option que le président avait initialement écartée et qui divise profondément la population américaine et la classe politique. Pour les démocrates, ce serait une nouvelle violation claire de la Constitution, comme l'a répété ce dimanche le sénateur Cory Booker.
This president is pushing us further and further into a conflict.
Ce président nous entraîne chaque jour un peu plus dans un conflit sans fin et il n'est toujours pas venu demander une quelconque autorisation au Congrès pour ce qui est clairement notre plus grosse intervention militaire depuis l'Afghanistan.
Côté républicain, les élus comme James Lankford continuent de soutenir le président et estiment que rien n'est décidé pour le moment.
Le président fait tout cela pour mettre la pression sur l'Iran dans les négociations. C'est pour leur montrer que les États-Unis pourraient faire beaucoup plus, des choses que seule l'armée américaine est capable de faire dans le monde. Je ne critiquerai pas le président seulement parce qu'il cherche à mettre la pression sur les Iraniens.
Certains républicains précisent tout de même que si Donald Trump choisit d'engager des troupes au sol pour une présence de longue durée, son administration devra probablement fournir un plan et une stratégie plus claire. Loubna Anaki, New York, RFI.
De son côté, Israël a voté cette nuit une augmentation massive des ressources allouées au secteur de la défense, l'équivalent de 8 milliards d'euros supplémentaires pour un poste avoisinant désormais un sixième du budget total de l'État. L'armée israélienne qui a mené de nouvelles frappes sur l'Iran ce matin et notamment des installations électriques de Téhéran, la banlieue sud de Beyrouth, a aussi été touchée.
Un conflit qui place la Syrie dans une position délicate.
Pour l'instant, les autorités de Damas ont choisi la neutralité, mais les effectifs militaires ont toutefois été renforcés à la frontière avec le Liban, justement où Israël combat le Hezbollah depuis le début du mois. Le risque, c'est désormais de voir des combattants du mouvement libanais fuir le pays vers le territoire syrien. De quoi raviver des souvenirs douloureux pour les habitants des villages frontaliers où le Hezbollah était implanté jusqu'à la chute de la dictature du clan Assad. Notre correspondante Manon Chaplin s'est rendue sur place.
Au son de musique révolutionnaire, Shafik Ababi remonte à travers la montagne les routes qui mènent à la frontière. Ancien membre de l'armée syrienne libre, clan d'insurgés face à Bachar al-Assad, il se rappelle les années de combat qui se sont déroulées là avec le Hezbollah.
Pendant que le régime syrien attaquait par les airs, leurs alliés du Hezbollah s'occupaient des combats terrestres.
Sur son téléphone, il fait défiler les vidéos et photos des violents affrontements.
Ils ont complètement rasé un village du nom de Bara. Plus de la moitié des habitants de la région ont dû partir. Nous, on était contraints de dormir dans la montagne, là-haut.
Près de la montagne, là-haut, justement, le nom du Hezbollah fait encore frémir de nombreux habitants. Nasser Abouziad y possède 23 hectares de vergers.
Il nous assiégeait, il nous affamait, il nous assoiffait, il nous insultait. Il ne nous laissait pas aller sur nos terres. Il taxait 10% des récoltes à chaque fois.
Alors que la guerre éclate de l'autre côté de la frontière, de nombreux habitants craignent qu'ici aussi la situation ne dégénère.
L'armée syrienne protège notre frontière. Il y a du trafic d'armes qui part d'ici. Mais nous, on souhaite à tout prix rester en paix, ne pas nous mêler des affaires des autres.
Malgré son choix de rester neutre, la Syrie se retrouve elle aussi prise en étau dans le conflit. Plus au sud, l'armée israélienne qui partout s'accapare des terres dans la région, poursuit ici aussi ses incursions. Manon Chaplin, à la frontière libano-syrienne, RFI.
Le président syrien, lui, est attendu en Allemagne. Aujourd'hui, Ahmed Al-Shara sera reçu par le chancelier allemand Friedrich Merz pour évoquer cette guerre au Moyen-Orient, la reconstruction de la Syrie après des années de conflit, mais aussi discuter du retour des Syriens dans leur pays d'origine.
Nous sommes le 30 mars, Paul, date clé pour mieux prendre soin de notre planète.
Oui, puisque c'est la journée internationale zéro déchet, et à cette occasion, RFI se penche ce matin sur le cas de la Chine, qui a parié depuis plusieurs années sur ses ordures pour produire de l'électricité, et ça marche tellement bien que certaines régions industrielles du sud et de l'est du pays manquent même de déchets pour leurs incinérateurs. Cléa Broderst revient sur ce virage spectaculaire opéré par le géant asiatique.
Un basculement rapide, presque contraint, dans un pays où la pression urbaine est extrême. Pour Su Heyun, ingénieur en chef à l'Académie chinoise d'urbanisme et de conception, l'incinération s'est imposée comme une nécessité.
Dans de nombreuses villes de l'Est, il n'y avait tout simplement plus de terrain disponible. Elles étaient confrontées à ce que le gouvernement appelait un état de siège des ordures. Le coût total est inférieur à celui de la mise en décharge.
Watching the rain fall, I'll be fine right here, just hanging around. I'll be fine right here, by the window. I'll be fine right here, in shine looking out. Any dinner, reclining on.
À se mettre sur la même longueur d'onde que les gens qui écoutent cette fréquence. Il ne reste donc plus qu'une solution, il faut diminuer le volume de votre radio. Le mieux serait de la débrancher.
Débrancher la radio? Oh nom de Dieu, il a perdu la tête!
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9.
Je t'en prie, je ne plaisante pas, il faut que tu éteignes ta radio!
Mais enfin, pourquoi veux-tu que je fasse ça?
a trop de maudites balances avec les poteaux du sud-ouest. C'est comme une colonie de vacances. J'ai du pédo dans les bagages, j'ai mon caleçon et ma serviette. Si je reste un jour de plus ici, ce qui va tomber, c'est la perpète. Bête les scores et prends des bières, baisse les stores et chante vénère. Ferme les portes, faut qu'on s'évade pour faire des bornes et changer d'air. Je veux du vent, des prairies vertes, ne plus voir des frères inertes. Partir loin des soucis crédits, être ses nombres faits divers.
J'ai besoin d'un autre panorama, il faut qu'on se casse gros. J'ai besoin d'allumer la lumière dans mon cerveau. Y'a que des soucis, peu de sourire, faut que la grisaille. Je veux du soleil, j'ai pas le temps d'être un vieux soumis. Je veux du gros son dans mes oreilles. Whisky coca sur le jet ski, une pose bédo près du corail. Y'a que des clones ou que des commis. J'ai refusé d'être un cobaye, trop brut pour être une bière polie. J'suis authentique, les détails, j'suis trop tendu comme Joe Plex. J'me fous de la PR et du cognac.
En première classe en caravane, en classe éco, en classe à faire. Je veux pas rester dans ma grisaille, m'ennuyer, j'ai pas que ça à faire. Parce que la route est débouchée, j'ai pris un autre itinéraire. Il faut qu'on se barre d'ici les frères, à Montreux, y'a pas la mer.
On se retrouvera peut-être dans 10 ans à la même place, mais je vais voir ma vie en vrai, pas derrière l'écran plasma. La bande dans les bagages, la vaisselle couleur pastèque. On prend le temps avec des souvenirs qu'on remplace pas.
On veut des bières qui tapent au crâne, une bonne esprit qui tabasse. Va bronzer au perche du Tarn, faut mélanger cocktail et tapas. La grisaille, c'est pas ma place, on a besoin d'un gros bol d'air. Dans ma tête, c'est Alcatraz, faut partir loin de tout ce bordel. Mets du soleil dans la rise, la caravane au cul du PM. Pas d'oseille dans la visa, on arrive sur la plage en TN. Faut calmer kebab et pizza pour réduire un peu la bedaine. J'me dis qu'il faut tailler fils, avoir des palmiers par la fenêtre.
On sera toujours dans le délire tant qu'il y aura des trucs à fêter. Traverser la côte en vélib, dans ma tête plus rien à péter. J'mets la fessée sans la ficelle et si ça force sur l'antisèche. Je mets en vitesse, j'ai déjà bloqué sur la pute. Tu en étais, je préfère le pouce à la fête. Le bordel, le sous à fufu. On va pas taffer tout l'été. Avec les cous, on a fait le plus dur. Bosse les lyriques, j'ai pas poussé. Les abdos, c'est pour le futur. Prends 2 minutes à pleine bouffée. J'ai le sourire sur la figure.
En première classe en caravane, en classe éco, en classe à faire. Je veux pas rester dans ma grisaille. M'ennuyer, j'ai pas que ça à faire. Parce que la route est débouchée. J'ai pris un autre itinéraire. Il faut qu'on se barre d'ici les frères. À Montreux, y'a pas la mer.
On se retrouvera peut-être dans 10 ans à la même place. Mais je vais voir ma vie en vrai, pas derrière l'écran plasma. La bande dans les bagages, la vraie, celle couleur pastèque. On prend le temps avec des souvenirs qu'on remplace pas.